Merci de vous réveiller sur Europe 1 ce samedi 11 juillet. Dans la prochaine demi-heure, l'invité politique de cette matinale, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise. On reviendra avec elle sur la mobilisation des féministes contre Gérald Darmanin notamment. Et puis nouveau rendez-vous, Souvenir de France avec Gwendoline de Bonneau, la France vue par les étrangers francophones. Mais d'abord, puisqu'il est 8h, la France et le monde vus par la bretonne de cette matinale. Voici le journal de Lénaïque Meunier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bonne fête à tous les Benoît de la part d'Europe 1.
Des oreillers, des sacs avec des bonbons à l'intérieur pour manger et des couvertures en fait pour ce matin si on avait froid.
Mais aussi des maillots et des masques. Ambiance un peu particulière en ce jour de départ. Le virus reste dans les esprits. Nous serons avec Marion Gauthier qui est en ce moment même avec des vacanciers.
Le chauffeur de bus très violemment agressé à Bayonne dimanche dernier est décédé à l'hôpital hier soir. Nous entendrons sa veuve dans ce journal. Elle réclame justice alors que Gérald Darmanin est attendu sur place dans la journée.
Dans ce journal également, des riverains en rogne sur la Côte Bleue car faute de boîte de nuit, les fêtards envahissent les calanques.
Il y a des poubelles de partout, des masques, des bouteilles d'alcool. C'est catastrophique. Je ressens de la peine pour la calanque. Et je commence à ressentir de la haine.
À Istanbul, la basilique Sainte-Sophie redevient une mosquée. Nous verrons quelles sont les arrière-pensées politiques du président turc Erdogan.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc le coup d'envoi des vacances aujourd'hui pour de nombreux Français. On attend pas mal de trafic tout au long de la journée. Bison futé voit du rouge partout, Lénaïque.
Oui, d'autant que certains qui n'ont pas forcément de congé vont profiter de ce long pont du 14 juillet. Patience et prudence, donc. Marion Gauthier, on vous retrouve, comme tout à l'heure, sur l'aire d'autoroute de Limours-Javry. Des vacanciers que vous avez croisés qui ont besoin de souffler, ça ils vous l'ont tous dit. Mais le coronavirus reste quand même dans les esprits.
Oui, difficile de ne pas y penser quand on a changé ses plans au dernier moment, comme Véronique. Plutôt qu'un long voyage organisé, ce sera camping en Vendée.
D'habitude, on part à l'étranger. Cette année, c'est la France. Et les avions, tout ça, c'est assez compromis. Donc, on n'a pas envie de rester bloqué non plus dans les pays à l'étranger.
Et depuis Bruxelles, Raymond serre les dents. Covid ou pas, masque ou pas, il ne sera vraiment en vacances qu'une fois les doigts de pied en éventail dans le sable de l'île de Ré.
Au départ, on a quand même hésité. On était assez méfiants, mais comme maintenant on garde les distances, il faut pas en faire une obsession. Enfin, c'est là. On n'a pas le choix, on vit avec. Hein. Relax, je suis en vacances.
Mais vite, très vite, faire une pause petit déjeuner. Charlie et ses deux sœurs sautillent avant de rentrer dans leur voiture pour repartir pour la Dordogne.
On a des oreillers, des sacs avec des bonbons à l'intérieur pour manger. Et des couvertures en fait pour ce matin si on avait froid et puis on échange un peu les places pour qui va au milieu, qui va pas au milieu. Il fait chaud, c'est long.
Mais l'aînée avoue avoir les yeux rivés sur le GPS. L'épidémie n'est pas tout à fait derrière elle. Reste 5 heures et quelques minutes de route et de ralentissement.
Marion Gauthier sur la route des vacances pour Europe 1. Et si vous préférez le train, n'oubliez pas les gestes barrières ni le masque obligatoire toute la durée du trajet. Car on rappelle que la France a officiellement franchi hier le cap des 30 000 morts du virus.
Dans l'actualité également ce matin, Lénaïque, l'accord validé au Ségur de la Santé, presque tous les syndicats sont prêts à signer.
Cet accord prévoit 180 euros d'augmentation pour les agents hospitaliers hors médecins et quelques 15 000 embauches. Les précisions pour Europe 1 d'Olivier Samin.
Il fallait la signature d'un ou plusieurs syndicats représentant au moins 50% des personnels non médicaux. À eux trois, les syndicats CFDT, FO et UNSA pèsent un peu plus de 50. L'accord est donc validé, avec notamment cette augmentation de 183 euros net par mois pour tous les personnels hospitaliers non médecins, les infirmières, les aides-soignants, mais aussi les personnels techniques et administratifs. 183 euros, ce ne sont pas les 300 euros que réclamait l'ensemble des syndicats. Mais pour Didier Birigue, le chef de file de FO, c'est quand même un moment d'histoire.
Depuis presque 30 ans, on n'avait pas eu un protocole qui avait apporté autant d'argent sur la table. Alors certes, on peut toujours voir la coupe pleine ou la coupe vide. Moi, je vois la coupe à moitié pleine et je sais que nous allons encore travailler dans les prochaines semaines pour essayer de la remplir encore un peu plus et c'est très bien comme cela.
La CGT, premier syndicat à l'hôpital, ne fait pas du tout la même analyse. Le Ségur de la Santé est une imposture, dit-elle, avec 5 autres organisations. Elle appelle à une journée d'action nationale et à une manifestation le 14 juillet à Paris, jour où le gouvernement a prévu de rendre un hommage aux soignants.
La fin de l'état d'urgence sanitaire, c'était à minuit tout à l'heure, à l'exception de la Guyane et de Mayotte où le virus circule toujours activement. Le Premier ministre Jean Castex est attendu demain en Guyane justement pour une visite express centrée sur les questions sanitaires.
Gérald Darmanin, lui, est attendu à Bayonne aujourd'hui après la mort hier soir du chauffeur de bus qui avait été agressé pendant son service.
Philippe Monguillot était en état de mort cérébrale après avoir été roué de coups et grièvement blessé à la tête alors qu'il voulait contrôler le ticket d'une personne et qu'il exigeait le port du masque de 3 autres passagers. Son épouse Véronique, extrêmement choquée, se dit apaisée désormais. Elle demande que la justice soit exemplaire à l'égard des agresseurs de son époux.
On est apaisé, on a beaucoup pleuré pendant tous ces jours. Il n'était vraiment pas raisonnable de continuer le protocole, tout en sachant l'issue qu'il pouvait y avoir de quelqu'un qui est un battant, qui aime la vie, se retrouver un petit peu en état végétatif, il n'aurait pas accepté. Voilà, on est apaisé et la justice doit m'aider au maximum. C'est la justice qui permettra de me venger en impliquant des peines exemplaires. Il faut vraiment que la justice, j'attends qu'elle soit avec nous, avec mes enfants, avec moi, et qu'elle se rende compte de la gravité de ce qu'il a pu se passer. On ne peut pas enlever la vie à quelqu'un parce que cette personne fait son travail le plus correctement possible. C'est inimaginable. Il a perdu la vie pour un masque et 1,20 €. Un ticket de bus, ça coûte 1,20 €. Enfin, je ne sais pas, au bout d'un moment, il faut retomber les pieds sur terre et surtout que cela ne se reproduise plus.
Et propos recueillis pour Europe 1 par Hélène Terzian.
Dans un instant, la suite de ce journal, on parle de ce haut lieu du tourisme en Turquie, la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Le président turc Erdogan a en effet décidé de la transformer en mosquée et moi dans le monde entier.
Il est 8h06 sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1, 7h-10h.
Sébastien Guyot.
La matinale d'Europe 1, 7h-10h.
Vos informations continuent avec Lénaïque Monnier et Sébastien Guyot.
Lénaïque, c'est désormais officiel. La basilique Sainte-Sophie à Istanbul n'est plus un musée, elle va devenir une mosquée.
Oui, ce symbole chrétien de la ville d'Istanbul avait été édifié au 6e siècle et puis elle était devenue un musée dans les années 30. Mais hier, le président Erdogan a autorisé le retour des prières musulmanes à l'intérieur. En faisant cela, il s'adresse à ses électeurs, mais pas uniquement. Il envoie aussi un message au-delà des frontières de la Turquie. Jean-Sébastien Soldaini.
Recep Erdogan envoie tout d'abord un message à Moscou, car Turquie et Russie s'opposent dans une lutte d'influence au Moyen-Orient et dans les Balkans. Et comme la basilique Sainte-Sophie est considérée comme sacrée par les orthodoxes, le président turc vient là marcher sur les plates-bandes du patriarche de Moscou et indirectement du Kremlin. Dans le même temps, il en profite pour s'affirmer aux yeux du monde musulman. Ce n'est un secret pour personne. Recep Erdogan se voit en leader du monde sunnite. L'islam politique est là un outil pour redorer son image dans cette frange du monde musulman, mais comme à son habitude, le président turc ne perd jamais de vue les gains qu'il peut en tirer en interne. Sainte-Sophie, en plus d'être la vitrine du pays, c'est le cœur de la ville d'Istanbul, la capitale économique de la Turquie qui a échappé au parti de Recep Erdogan lors des dernières municipales. Il espère ainsi ramener à lui les électeurs de la ville au risque de perdre quelques visiteurs étrangers et l'aura internationale du lieu, car l'UNESCO pourrait revoir le statut de l'édifice jusque-là inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.
Direction Marseille à présent, et plus précisément les Calanques.
Un site qui nous fait tous rêver, sauf que depuis quelques temps, la carte postale n'est plus aussi jolie qu'avant. Tard le soir, les Calanques sont prises d'assaut par les noctambules privés de boîtes de nuit. Les riverains subissent donc le bruit, tout autant que les déchets éparpillés partout. Reportage sur la Côte Bleue de Nathalie Chevance.
Ambiance club au fond des Calanques, la musique couvre le chant des cigales. Dès le milieu de l'après-midi, les riverains médusés voient débouler par dizaines baigneurs et autres fêtards, le plus souvent venus de Marseille.
Parce qu'on habite en ville, nous on n'a pas le droit de venir se baigner ici. Ouais, parce qu'ils pensent que c'est à eux. Ben non, c'est pas eux. Des fois, c'est vrai qu'il y en a, ils font n'importe quoi. Et même nous, on se plaint, pourtant on n'est pas d'ici.
Balai incessant de voitures dans une crique minuscule, incivilité, bagarre, la carte postale tourne au cauchemar pour Joe Calanquier.
On est victime de la beauté des Calanques. Les jeunes, ils ne respectent rien. Ni les bateaux, ni les gens. Ils crachent par terre, ils nous crachent dessus, ils nous insultent. Il n'y a rien qui les arrête. Il y a des poubelles de partout, des masques, des bouteilles d'alcool. Il y a un gros problème d'insécurité. C'est catastrophique. Je ressens de la peine pour la Calanque. Et je commence à ressentir de la haine.
La solution pour les riverains, installer un barrage en haut de la Calanque tous les jours pour dissuader les voitures. Le maire Michel Illac, lui, en appelle aux forces de l'ordre.
Je partage l'inquiétude et je partage la réalité de la situation. Tous ces gens, ils doivent être surveillés, éventuellement sanctionnés, parce que c'est le rôle régalien de l'État. Donc il faut trouver le juste compromis.
Car pas question pour la mairie de boucler la Calanque, où les patrouilles de gendarmes vont se multiplier. En Suez, la redonne, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis avis aux amateurs et aux supporters de foot, hein, les stades rouvrent au public aujourd'hui dans la limite de 5000 personnes.
Oui, ce qui est déjà sain, et ce qui permet d'organiser des matchs amicaux en public. Les premiers stades à ouvrir leurs portes, ce sont ceux de Chambly et de Caen, qui rencontrent respectivement Boulogne-sur-Mer et le Paris FC. Et puis demain, on verra si les stars du Paris Saint-Germain sont en forme avec un déplacement au Havre à 19h.
Et on suivra ça bien sûr avec nos envoyés spéciaux. Merci Lénaïque Monnier, vous revenez à 9h.
À tout à l'heure.
À 8h11, vous écoutez Le Monde Changé avec Sébastien Guillot sur Europe 1.